7h44 à Paris. Tout de suite, c'est la revue de presse. Revue de presse africaine avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, va-t-on vers un dégel entre la CDAO et les pays de l'AES?
Bamako, Niamey, Ouagadougou, le président ghanéen John Dramani Mahama vient de boucler une tournée dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Objectif, relève Afrique.com, renforcer les liens diplomatiques et explorer les possibilités de réintégration de ces pays au sein de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conformément à l'appel conjoint lancé mercredi dernier à Abidjan, par le président ivoirien Alassane Ouattara et par John Dramani Mahama. Le président ghanéen a insisté sur la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CDAO. Cette déclaration, estime Afrique.com, traduit une volonté manifeste de relancer le dialogue entre ces nations et l'organisation sous-régionale.
Sahel Tribune à Bamako s'interroge: pourquoi Mahama tend-il aujourd'hui la main à des régimes de transition qui ont claqué la porte de la CDAO?
Simple diplomatie, pas uniquement, répond le journal. Derrière ce rapprochement se cache une série d'intérêts économiques, stratégiques et énergétiques cruciaux pour le Ghana. Et en effet, précise Sahel Tribune, en 3 jours et 3 capitales, John Mahama a redéfini la posture du Ghana face au bouleversement ouest-africain. Là où le Nigeria campe sur une ligne dure vis-à-vis de l'AES, Accra privilégie la voie du pragmatisme. Commerce, énergie, sécurité, loin des querelles institutionnelles, le président ghanéen veut ancrer son pays comme un partenaire économique et stratégique incontournable pour les 3 États sahélien. Une prise de position qui ne manquera pas de susciter des remous au sein de la CDAO, estime encore Sahel Tribune, où le Ghana, traditionnellement proche du Nigeria, semble aujourd'hui jouer sa propre carte. Un réajustement tactique, un virage stratégique, une chose est sûre, conclut le site malien. Accra regarde désormais autant vers Bamako, Ouagadougou et Niamey que vers Abuja. Et dans cette recomposition régionale, Mahama vient de poser ses premiers jalons.
Au-delà des intérêts économiques des uns et des autres, le quotidien aujourd'hui à Ouagadougou insiste sur le volet diplomatique de cette tournée.
D'abord, reprendre le dialogue, détendre un contexte plutôt constipé et créer un dégel diplomatique, marche-pied vers une persuasion de retourner dans la CDAO. Telle était la mission de Dramani, pointe le quotidien burkinabé. Une mission de contorsion, de confiance, de management des susceptibilités et de lecture pragmatique de la géopolitique sous-régionale et internationale. Pour l'instant, c'est un Dramani funambule sur un fil qui évolue et qui sait bien que deux de ses devanciers, le Togolais Faure et le Sénégalais Diomaye Faye, ont fait chou blanc. S'il réussit à ce qu'Alassane Ouattara et Patrice Talon reprennent langue avec Goïta, Tiani et Ibé, ce serait déjà une petite victoire d'étape, car au-delà de la CDAO, tous ses présidents se regardent de travers.
L'alternance à Bamako s'interroge en écho. John Dramani Mahama pourrait-il réussir là où les présidents sénégalais et togolais ont échoué?
Oui, les présidents des États de l'AES vont-ils saisir cette ultime main tendue du président ghanéen pour revenir dans la grande famille avant qu'il ne soit trop tard? Nul ne saurait répondre par l'affirmative, affirme le quotidien bamakois, quand on sait que les 3 chefs d'État de l'AES sont déterminés à aller jusqu'au bout de leurs ambitions et n'entendent pas reculer d'un iota. En réalité, ils aspirent tous à rester au pouvoir aussi longtemps qu'ils le pourront, hors du cadre et des normes de démocratie et de bonne gouvernance fixées par la CDAO. Ils ne feront plus marche arrière. Bref, conclut l'alternance, pour ceux qui rêvent de voir la CDAO à 15 États et plus, plutôt que 12, risquent de voir leur rêve ne pas se réaliser, car les dirigeants des États de l'AES n'entendent pas renoncer donc à leurs ambitions.
Enfin, l'essor, toujours à Bamako, prévient.
Oui, toute détente future entre la CDAO et les pays de l'AES dépendra de ce respect mutuel qui a été demandé dès le début par les pays de la Confédération et notamment le Mali. La démarche ghanéenne n'altère pas le processus de retrait des 3 pays déjà en marche, pointe encore l'essor. Détente, réconciliation, coopération, l'AES s'est toujours tenue prête, ancrée qu'elle est dans le panafricanisme, mais avec une souveraineté à respecter.
Frédéric Couteau et la revue de presse africaine. Dans une demi-heure pour la revue de presse internationale, Frédéric, vous nous parlez de ce vent de panique à Wall Street.
Oui, les indices boursiers américains ont chuté hier. L'économie américaine, nous le verrons, ralentit et pourrait même entrer en récession.
À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Également à la une ce mardi, l'armée russe dit avoir abattu cette nuit 337 drones ukrainiens au-dessus de plusieurs de ses régions, dont 91 dans la région de Moscou. Attaque massive, la plus importante visant le territoire russe depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Et elle intervient à l'aube de pourparlers à Jeddah en Arabie Saoudite entre Ukraine et États-Unis, des discussions durant lesquelles Kiev va présenter un plan de cessez-le-feu partiel avec la Russie. Arabie Saoudite et Qatar qui condamnent ce mardi la coupure de l'approvisionnement en électricité par Israël de la bande de Gaza, une violation flagrante du droit humanitaire international selon le ministère saoudien des Affaires étrangères. Déclaration alors que des discussions se tiennent cette semaine à Doha pour garantir la poursuite de l'accord de trêve entre l'État hébreu et le Hamas dans l'enclave palestinienne. L'ex-dirigeant des Philippines, Rodrigo Duterte, arrêté ce mardi à l'aéroport de Manille en application d'un mandat d'arrêt de la CPI, une arrestation illégale pour l'ancien conseiller juridique de la présidence. Human Rights Watch estime de son côté que cette arrestation constitue une étape cruciale dans l'obligation de rendre des comptes aux Philippines. La CPI soupçonne Rodrigo Duterte de crimes contre l'humanité pour ses opérations anti-drogue particulièrement meurtrières menées aux Philippines. Et puis, pour le chef des FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes, de l'accord avec le président syrien par intérim représente, je cite, une vraie occasion pour construire une nouvelle Syrie, dont cet accord annoncé hier et accueilli par plusieurs manifestations de joie en Syrie. On y revient dans le prochain journal. Au Gabon, dans un mois, ce sera la présidentielle et pour l'heure, 4 candidats sont en lice. En tout cas, leurs dossiers ont été validés. 4 sur les 23 candidatures déposées. Il s'agit notamment du président de transition Brice Clotaire-Oligui Nguema, l'ex-premier ministre Alain Billy Binzé, Stéphane Germain Iloco et puis l'inspecteur des impôts Joseph Lapensée et Sigone. Les recalés, eux, ont jusqu'à demain, mercredi, pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. C'est le cas du leader syndicaliste Jean-Rémy Yama. On revient sur cette situation avec notre invité ce matin, Bergès Mieté, enseignant à l'Université internationale de Libreville, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux, en ligne de Libreville. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Bergès Mieté, bonjour.
Bonjour.
23 dossiers de candidature déposés, mais seulement 4 dossiers retenus. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Cela suppose que ce scrutin-là a suscité beaucoup d'intérêt, un engouement au regard du nombre de candidatures. On peut tout simplement déplorer que le nombre de dossiers retenus ne soit pas conséquent.
Oui, 19 dossiers ont été rejetés.
Oui, tout à fait.
Alors, parmi les dossiers rejetés par le ministère de l'Intérieur, il y a ceux des 4 femmes qui voulaient être candidates. Et puis, il y a le dossier d'une figure de la société civile, le leader syndicaliste Jean-Rémy Yama, qui a fait 18 mois de prison sous le régime Ali Bongo. Officiellement, il est recalé parce qu'il n'a pas présenté l'acte de naissance de son père, qui est né il y a plus d'un siècle, en 1920. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, au Gabon, il y a effectivement un problème d'état civil qui ne concerne pas que Jean-Rémy Yama, beaucoup de personnes. Je pense que, étant donné que les autorités sont conscientes de cette question-là, le problème d'état civil, je pense qu'il devait y avoir des mécanismes permettant de faciliter l'accès d'établissements, des jugements supplétifs, ne serait-ce que pour des candidats qui aspirent à la magistrature suprême.
Alors, Jean-Rémy Yama a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle. Pour sa défense, il dit deux choses. Un, qu'en 1920, l'année où son père est né, le Gabon n'existait pas administrativement. Et deux, qu'il est inscrit sur son acte de naissance à lui que son père et sa mère sont gabonais. Est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle vont être en mesure d'entendre ces deux arguments ?
Ben, on l'espère, hein, tout simplement. Dès lors que la nationalité des parents figure bel et bien sur le document d'état civil du concerné, je pense que les juges en tiendront compte.
Et si le recours de Jean-Rémy Yama est rejeté, est-ce qu'on pourra parler d'excès de formalisme ou d'une décision politique ?
Je pense qu'on parlera plutôt d'excès de formalisme, quand bien même on peut tenir compte des deux éléments. Puisque, à la différence d'autres candidats, Jean-Rémy Yama apparaît davantage comme le candidat anti-système. Je pense que Jean-Rémy Yama tente d'incarner la nouvelle opposition gabonaise en construction. Et pour ce scrutin-là, pour beaucoup, l'idéal serait qu'il participe effectivement.
Voulez-vous dire que s'il ne peut pas se présenter, beaucoup de Gabonais diront qu'il a été écarté parce que le général Oligui Nguema en a peur ?
Je pense que cette idée-là pourrait effectivement être mobilisée. Je pense que Jean-Rémy Yama a la particularité de pouvoir parler avec tout le monde. Et comme il n'a jamais appartenu officiellement au régime précédent, je pense que sa voix est entendue par beaucoup de Gabonais. Maintenant, si sa candidature est retenue, on verra sur le terrain comment il va se déployer.
Longtemps, la Cour constitutionnelle a été présidée par Marie-Madeleine Boransuo, qui était une personnalité très proche du régime d'Ali Bongo. Elle a d'ailleurs été écartée au lendemain du coup d'État du 30 août 2023. Aujourd'hui, est-ce que le nouveau président de la Cour, le magistrat Dieudonné Abba Owono, est considéré comme un proche du régime de Brice Clotaire-Oligui Nguema ?
Oui, tout à fait. Il pourrait être taxé de partialité en raison de sa proximité discuter avec le président de la transition. Et d'ailleurs, sa nomination à la tête de la Cour constitutionnelle a fait réagir une certaine classe politique au niveau national.
Le général Oligui Nguema et le magistrat Dieudonné Abba Wono sont cousins. Est-ce que ce lien de parenté peut nuire à la crédibilité à venir des décisions de la Cour?
On a vu récemment avec la sortie de Jean-Rémi Yama sur un processus de fraude qui était en marche. Il appelait d'ailleurs le Gabonais à la vigilance. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'autres candidats en lice. Il y a la candidature d'Alain Claude Bilbizé, que je considère comme étant le principal challenger de Brice Oligui Nguema. Quand bien même Alain Claude Bilbizé a été, à une décennie durant, le visage du régime d'Ali Bongo, il apparaît auprès d'une certaine frange de la population comme une personne sulfureuse en raison de ses prises de position passées.
Donc pour vous, si Jean-Rémi Yama ne peut pas se présenter, il n'y aura pas match?
Oui, je pense que la présidentielle du 12 avril 2025 ne sera pas très disputée, très compétitive. Et cette hypothèse-là se fonde sur trois faits majeurs. En premier lieu, il y a comme un consensus national autour de la candidature et la personne d'Oligui Nguema. Autre élément, donc, Brice Oligui Nguema est l'auteur du coup d'État. Ce fait historique est source d'adhésion et d'admiration. Et dernier élément, Brice Oligui Nguema n'a pas, comme je disais tantôt, en face d'adversaires très fiables. Donc, faute de challenger, je pense que le scrutin présidentiel du 12 avril sera un match amical entre Oligui Nguema et un candidat de faible envergure.
Bergès Mietté, merci.
Bergès Mietté, enseignant à l'Université internationale de Libreville, chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Il répondait à Christophe Boisbouvier. Maman, on vous retrouve comme chaque matin et aujourd'hui vous nous dites que la guerre fait les affaires de beaucoup de gens.
Oui, comme dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un dicton valable en tout temps, partout, que ce soit en politique, dans les affaires, en football, au bureau, au quartier et surtout en temps de guerre. Et oui, le désordre et le chaos peuvent devenir des opportunités pour les plus malins et les plus vigilants. Et là, mon ami, je ne te parle pas de la stratégie du chaos, chère à tous les conglomérats va-t-en-guerre qui, à chaque guerre, jouent les camions balais pour ramasser la mise pendant que les ruines soient encore fumantes. Tous ces petits malins qui gagnent des contrats pour reconstruire les bâtiments rasés, les ponts bombardés, les routes éclatées, tous ces messieurs bien habillés et bien introduits et surtout bien informés qui récupèrent les barils de pétrole, les kilos d'or et de coltan, les carats de diamants, les billes de bois. Je te parle pas non plus de ces commerçants qui trouvent que la guerre, ben c'est comme Noël, Ramadan et Tabaski. Il faut en profiter pour augmenter les prix de tous les produits de première nécessité. Mon ami, je te parle d'autres personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, mais qui étaient assises, la tête dans les mains, se demandant comment se sortir de leurs problèmes et puis boum, voici la guerre à l'autre bout du monde, voici la guerre à la une de tous les médias. Prends par exemple notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur. Il y a juste quelques jours, mais tout le monde l'embêtait, comme quoi il malmène trop l'opposition et la société civile gondouanaise, ne leur laissant aucune liberté de manœuvre, pas le droit de manifester, pas le droit de sortir du pays, pas le droit de parler dans les médias gondouanais, rien de rien. Tout le monde était sur le dos de notre leader bien-aimé. Les syndicats qui n'ont que la grève à la bouche, on va faire grève, on va faire grève. Les étudiants qui ne pensent qu'à leur bourse, les défenseurs des consommateurs pour qui la vie devient trop chère, les prix ne font que monter, et pour eux, tout ça, ben c'est de la faute de ce méchant président fondateur. Puis, boum, badaboum, voici le méchant absolu, le méchant du film, Vlad le Costaud, qui fait son entrée à la une de l'actualité. Comme dit le Becherel, quand des méchants se suivent, ben le plus méchant met tous les autres à l'infinitif. Aujourd'hui, Vlad a mis tous les bad boys à l'infinitif. Il les a relégués loin à l'arrière du bus, loin dans les dernières pages des journaux entre l'horoscope et les avis et communiqués. Tous les maltraités de l'actualité disent merci à Vlad d'avoir pris toute la lumière sur lui et détourné les caméras de leurs bobines à eux. Mon ami, on t'embêtait parce que tu as fait un coup d'État et que tu veux un quinquennat cadeau? Ben dis merci à Vlad. On t'enquiquinait pour des milliards tombés du camion? Dis merci à Vlad. On te harcelait pour des fêtes alcoolisées pendant le confinement? Dis merci à Vlad. Tu as une campagne électorale dans quelques jours et tu n'es pas encore officiellement candidat? Ben dis merci à Vlad, parce que tu n'auras même pas besoin de la faire, cette campagne. Tu as déjà gagné. À demain.
Merci Maman, et à demain RFI. On reste ensemble dans une minute, le journal international présenté par Alban Le Prince. On se retrouve juste après à 8h15 pour la revue de presse internationale.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
Dans le royaume de Pamanga, rire est une obligation car un virus dévastateur tue quiconque sombre dans la tristesse. Voici Zamzam, le dernier roman d'Eugène Ebaudet. Roman, farce picaresque, animé par la folie d'un héros au crâne de pierre, drôle et poétique.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans. Claudie Sciarre.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, nous avons 30 ans. 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI, 2 heures de fête avec de nombreux invités, beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur Tropicale à 30 ans, rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel, 21h10 en France, toi-même tu sais.